Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Oui, madame, monsieur, le dimanche 28 octobre, à ne pas rater, Potpourri Show vous propose une édition spéciale dans le cadre de la journée de la langue et la culture créole, célébrée à travers le monde. Et cette année, l'équipe de Potpourri Show célébrera cette 36e édition en partenariat avec plusieurs professeurs, organismes communautaires, médias partenaires et en liaison avec le 16e colloque international des études créoles qui se tiendra à l'Université des Seychelles, océan Indien, du 22 octobre au 2 novembre 2018 et plusieurs partenaires d'ici et d'ailleurs. Et oui, nos partenaires invités, Dr Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti et fondateur de Perspective Entraide Humanitaire, professeur Aurélie Lacassagne, qui a écrit l'essai Perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne, publié aux éditions Prise de Parole, la fondation Sylvanie Lindor de la région de Toronto, Joyce Viramutu, qui est l'animatrice du magazine des Mascarennes, Radio Centre-Ville à Montréal, Peggy Civil Communications à Ottawa, professeur Thomas Speer de la City University of New York. Il est auteur de nombreux articles sur des écrivains francophones et de monde créole aussi, et enfin Radio France Internationale. Si cela vous tente, vous voulez voyager dans le monde créole du monde entier, vous nous envoyez un message immédiatement à potpourri@cut.fm ou encore visitez notre site www.potpourrishow.com. Potpourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde avec la journée de la langue et la culture créole, dimanche prochain, le 28 octobre, un rendez-vous à ne pas rater.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Et oui, madame, monsieur. ce dimanche 28 octobre, à ne pas rater une invitation spéciale au concert de Fatoumata Kouyaté, femme griot du Mali, sera à Toronto. Mabindi Sila, originaire de la Guinée-Conakry, sera aussi parmi nos invités. Blandine, la chanteuse, interprète canadienne, très connue dans la région de Toronto et du Québec. Montréal, originaire du Congo, seront tous ces gens seront au Lula Lounge. Nous avons une paire de billets pour vous, cela vous intéresse. Dimanche prochain, à partir de 20h, à ne pas rater, il y aura aussi un repas, souper, comme vous le préférez. Collaboration, production et nos partenaires Batuki Music Society et Lula Lounge Music et Arts Center and Polyphonic Ground. Un grand merci. Réservez vos places pour le souper si cela vous intéresse. www.lulalounge.ca ou encore 416-588-0307. Invitation spéciale au concert de Fatoumata Kouyaté en direct du Mali, la femme griot qui n'a pas besoin de présentation. Devenez membre de notre émission et gagnez 2 billets gratuits, gracieuseté de Batuki Music Society.
Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, bienvenue à Popourri Show, madame, monsieur, où que vous soyez à travers la planète. On vous dit bien le bonjour, nous sommes au show en direct de Miami, en ce dimanche 21 octobre. DJ Devera, où êtes-vous? L'ingénieur du son, merci d'être là. Sloan Ballan, qui est quelque part à Toronto, qui sera des nôtres, je pense. Ici Ricader, avec vous sur www.cut.fm. Monsieur Carole Jolin, il nous appelle, c'est urgent. Midi 5 environ, Monsieur Jolin. Ah oui, émission réalisée aujourd'hui en partenariat avec Radio France Internationale, la France 24, TV5 Monde, le magazine Francosphère, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, le site Île en Nil, qu'est-ce que c'est? On en parle. Et aujourd'hui au menu, ce 21 octobre, prochain congrès de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario ayant pour thème « Innovons ensemble, partenariat, collaboration et innovation sociale ». C'est des grands mots, qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, cela vous tente, c'est du 26 au 28 octobre et à Toronto et non à Ottawa ou Sudbury pour une fois le congrès de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario se déroule chez nous. À Toronto, un peu au nord de la ville de Toronto. Allez sur le site www.monassemblée.ca/formulaire congrès 2018 pour vous inscrire immédiatement. Notre invité sera des nôtres vers midi Monsieur Carole Jolin, président sortant, monsieur Jolin veut, aspire à un deuxième mandat, croyez-le ou pas. Pourquoi ? Et quels sont ses projets pour l'avenir de la francophonie ontarienne ? D'ailleurs, pourquoi l'Ontario a boudé le dernier sommet de la francophonie ? Innovons ensemble, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que cela veut dire quand les francophones, certains francophones, se disent exclus de la francophonie ontarienne ? Et quand on regarde aussi la façon dont les francophones sont traités dans la province de Nouveau-Brunswick, eh oui, coup de théâtre, surprise, dans les rangs de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, après les propos des Noirs francophones de l'Ontario contre la direction de l'AFO, vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, créant même une certaine polémique, un jeune étudiant, Pablo Mana Sandoval, très jeune, se lance dans la course à la présidence de l'AFO. Est-il vraiment sérieux ? A-t-il l'étoffe, le charisme et les capacités pour être à la tête d'une importante province comme l'Ontario, enfin, à la tête de la francophonie, bien sûr. Rentrée littéraire, aujourd'hui, nous recevons le grand écrivain qui sème la polémique dans la francophonie. Qui est-il ? C'est bien sûr Alain Mabankou, écrivain congolais, qui nous présente son nouveau roman « Les cigognes sont immortelles ». Et il nous dresse un portrait de l'Afrique d'aujourd'hui qu'il estime être aux prises avec la vision coloniale de l'histoire et de la francophonie. Collaboration spéciale du magazine Francosphère. Et pour donner suite à notre intérêt sur les élections scolaires et municipales, certains médias continuent à dénicher, pour le plaisir de la galerie, des candidats, des candidates hors normes. Et même certains, par-dessus le marché, sont francophones. Et oui, l'un qui veut remettre le système scolaire à l'endroit et l'autre qui souhaiterait que l'on taxe des biens immobiliers achetés de l'étranger et préserver le patrimoine historique de Toronto. Voilà ce qui fait sourire les anglophones et nos amis et partenaires à Miami et dans la région de Toronto. Marc Albert Cormier, qui porte plusieurs chapeaux, est l'un des candidats dans la 11e circonscription. C'est dans la région University Rosedale de Toronto. Est-il vraiment sérieux, ce monsieur ? A-t-il une chance de l'emporter ? Il sera des nôtres dans la deuxième heure à ne pas manquer. Et aussi une question, le maire sortant de Toronto, John Tory, a fait plusieurs promesses aux francophones, mais quels gestes concrets ont été posés en matière de francophonie pendant ces 4 années à la tête de la ville ? Si vous voulez réagir, faites-le immédiatement, popourri@cut.fm. Je viens d'apprendre aussi, j'ai même entre les mains la note de service, le mémo ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario qui entreprend un remaniement organisationnel qui aura des conséquences énormes sur les communautés francophones. Plusieurs fonctionnaires qui veulent garder l'anonymat dénoncent le gouvernement Ford pour le manque de transparence, de consultation et son improvisation et craignent pour le service offert aux citoyens. Et oui, cette annonce survient alors que la Ontario Health Coalition, qui milite pour de meilleurs services en santé, organise une manifestation mardi prochain, le 23 octobre, à midi, à Queen's Park, intitulée « Pas de compression ni de privatisation ». J'ai entre les mains cette note de service, ça donne froid dans le dos. Et oui, et rentrant de Miami, j'ai dans ma valise des rayons de soleil pour vous, de la gaieté, des propos encourageants des jeunes, des femmes, des universitaires et associations LGBTQ2. Tous sont unanimes, il faut que les primaires, le midterm, soient une leçon pour Donald Trump. La course s'annonce très serrée en Floride, bastion des républicains. Un jeune maire afro-américain risque de changer la donne, c'est à suivre. Et au mois d'octobre, c'est le mois des créoles. L'île de la Réunion a perdu un grand écrivain et poète, Daniel Honoré, un passionné, un fervent défenseur de la langue créole. Il a publié des dizaines de nouvelles, proverbes, contes. Il a été également l'auteur de nombreux recueils de poésie. A notamment publié en 2002 un dictionnaire d'expressions créoles. Et nous tenterons de parler à quelqu'un qui l'a même interviewé, hein, il y a quelques années de cela, en 2009, professeur Thomas Spears, qui nous écoute peut-être sur Internet. Bonjour professeur, il est à New York, il enseigne le français à l'Université de New York, un passionné de la culture créole, de la francophonie, qui a bien connu le poète Daniel Honoré, réunionnais, décédé vendredi. Et mille merci à ceux et celles qui ont contribué à l'avance pour notre prochaine campagne de levée de fonds, campagne d'adhésion très importante, chaque dollar compte, et avec les 250 soumissions de projets d'émission, il est important de démontrer aux membres du conseil d'administration de CUTFM votre attachement à la francophonie, à CUT 89,5 FM. Sloan Ballon attend votre appel au 86 946 7000, ou encore popourri@cut.fm. Merci. Je pense qu'il y a pas mal de gens en studio à Toronto, hein. Alors, les réactions affluent depuis ce matin sur les médias sociaux. Les Franco-Ontariens ont perdu, peut-être vous l'avez entendu, un grand bâtisseur. Et oui, l'historien de Sudbury, Gaëtan Gervais, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 74 ans. Il était entouré de sa famille quand il a rendu l'âme après une longue et difficile lutte contre le Parkinson. Gaëtan Gervais a été professeur d'histoire à l'Université Laurentienne de 1972 à 2008. L'une des œuvres majeures de la vie du professeur Gervais reste sans doute la co-création du drapeau franco-ontarien en 1975. Il a d'ailleurs été reconnu comme symbole officiel de la province à l'unanimité par l'Assemblée législative de l'Ontario en juin 2001. Toutes nos condoléances, sincères condoléances à sa famille et ses proches. Les buzz de nos médias partenaires, et merci à tous ceux et celles qui nous envoyaient plein de messages cette semaine. On a raté peut-être quelques-uns, on s'en excuse. De hashtag ONFR, la grande nouvelle qui a fait la manchette autour du monde cette semaine. Eh oui, le Canada, l'Ontario était sur la carte monde. Moment historique, le Canada légalise la consommation de cannabis et devient ainsi le deuxième pays au monde à choisir cette voie après l'Uruguay. La Société ontarienne de cannabis a lancé un site internet le 17 octobre avant l'ouverture dans quelques mois de magasins par le secteur privé. Et saviez-vous que en tant que consommateur francophone en Ontario, vous avez droit de vous faire servir en français? Il est essentiel, madame, monsieur, vous les francophones, de bien saisir les méfaits et conséquences du cannabis avant d'en consommer. Le club canadien de Toronto vous invite à un cocktail dînatoire et causerie avec Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada, au Sheraton Parkway Toronto North, qui est pas très loin de Highway 7 East, au Richmond Hill Salle Richmond. C'est jeudi 25 octobre, cette semaine, c'est juste avant que se déroule le congrès annuel de l'Assemblée de la Francophonie. Donc, allez assister à cette conférence, je pense que ça va être très intéressant. Jeudi 25 octobre, dès 18h30, la date limite de l'achat des billets avec réservation, c'est mercredi le 24 octobre à 12h. Je vous rappelle que le mandat du commissariat aux langues officielles du Canada et de promouvoir la loi sur les langues officielles et de veiller à sa mise en œuvre intégrale, de protéger les droits linguistiques des Canadiennes, des Canadiens et de promouvoir la dualité linguistique et le bilinguisme au Canada. La Société d'histoire de Toronto vous invite à sa prochaine conférence, l'Université de l'Ontario français, c'en est le thème, du rêve à la réalité, réflexion sur la trajectoire de cette première université de Toronto avec le recteur par intérim dans le dossier de l'Université de l'Ontario français. Monsieur Normand Labrie, recteur par intérim, sera le conférencier invité mercredi 24 octobre à 19h à l'Alliance française de Toronto, pas très loin du métro Spadina. La conférence est gratuite. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message à la Société d'histoire de Toronto, info@sht.ca. La prochaine conférence de la Société d'histoire de Toronto aura lieu le mercredi 21 novembre. Ils partirent pour un long voyage, les Autochtones en Europe au 19e siècle. Conférence animée par Daniel Callot. La Fédération de la jeunesse canadienne-française est fière d'annoncer le développement de la stratégie nationale pour la sécurité linguistique, étant à la fois un enjeu de société intergénérationnelle et intersectorielle. Cette nouvelle stratégie proposera des pistes d'action qui pourront être mises en œuvre par différents secteurs de nos communautés à travers le Canada afin d'accroître la sécurité linguistique des francophones d'un bout à l'autre du pays. Nous aurons le plaisir d'accueillir ce nouveau partenaire à nos micros au mois de novembre. Alors, il est de plus en plus dangereux de nos jours, madame, monsieur, d'être un journaliste. Eh oui, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie, dans le consulat, chez le consul, le consulat, le bureau consulaire d'Arabie Saoudite. Et quand vous voyez le locataire de la Maison Blanche qui tergiverse, qui ne sait pas quoi dire, car tout le monde à travers la planète, on sait celui qui est le coupable de ce meurtre. C'est très très triste ce qu'on vit ces temps-ci. Donc il est de plus en plus dangereux de nos jours pour des journalistes de révéler les vrais visages des politiciens, y compris dans notre cher terroir de la francophonie. Le ton monte entre Jean-Luc Mélenchon et Radio France cette semaine dans la cellule Investigation qui a publié vendredi dernier des révélations sur le financement de la campagne du candidat insoumis à la présidentielle de 2017. Et Radio France, notre partenaire, radio partenaire français, a porté plainte hier contre Jean-Luc Mélenchon, leader du parti politique, parti très important en France, qui s'appelle la France Insoumise. Ce cher monsieur s'en est pris aux journalistes de la radio publique dans un post sur Facebook. Vendredi, appelant sur Facebook à pourrir les journalistes de France Info. Je répète, M. Mélenchon, qui écrit sur sa page de Facebook, appelant les Français, ses membres, à pourrir les journalistes de France Info. Pourrissez-les partout où vous pouvez. Les journalistes de France Info sont des menteurs, des tricheurs. Les qualifiant également d'abrutis. Ils sont comme des moutons. Il y en a un qui court et tous les autres courent derrière. Cet appel à la haine et à la violence est irresponsable. On dirait que c'est le président Trump qui appelle ses ouailles à attaquer les journalistes dans ses rassemblements. C'est dangereux. Ces dirigeants n'ont aucune morale. Ils se pensent au-dessus des autres. Si tu réagis de la même manière que lui face à la police, où penses-tu atterrir ? Écrit un auditeur. Un autre auditeur, d'ailleurs ils sont très nombreux à réagir, j'ai reçu beaucoup beaucoup de commentaires. Bernard qui écrit, donc si cet homme, même pas ministre, en parlant de Jean-Luc Mélenchon, se pense déjà au-dessus des lois, pour une perquisition, qu'en sera-t-il après ? De plus, il se comporte comme n'importe quel politicien. Il gueule, dénonce, mais on ne le voit jamais se salir les mains. C'est sans doute son mépris envers les accents. Ah oui, on s'en souvient, il avait aussi critiqué une journaliste Eh oui, qu'on soit de Toulouse ou du Nord ou de Marseille ou de des Landes, nous faisons partie et nous sommes fiers de la France, de notre patrimoine. C'est aussi ce qui fait la France, nous dit toujours cet auditeur. Donc, c'est un homme qui méprise les lois, méprise les gens, se moque, n'a aucun respect. J'ai juste envie de vomir. Où allons-nous avec des politiciens de cette trempe? Et si cela se passait en Ontario, à Montréal, ou quelque part au Canada?
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Hi, this is Ken Stauer, station manager for CIUT-FM. I'd like to remind our listeners that the Sound of Your City membership drive campaign is fast approaching. The on-air drive will take place from November the 12th through to the 18th. We are looking forward to your financial support. If you love what you hear and if you value the creative programming that is offered on CIUT-FM each and every day, then I would encourage you to make your donation today. You may do so at our secure server, CIUT.FM. Just click on the Donate Now button. All donors will be eligible for the exciting grand prize draw of return airfare for two to Iceland with hotel accommodation included and more. So please help us make this membership drive campaign a success. You can help us do so by donating in advance right now at CIUT.FM. CIUT-FM 89.5, bringing you the sound of your city every day.
That means hello, everyone. Iswatundage, you are all listening to CIUT Wadrenota. You're listening to CIUT Radio 89.5 Nigantrum. It is placed at the frequency of 89.5.
Et oui, la rentrée 2018-2019 est bien entamée à CUTFM et toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 32 ans déjà que Popourri Show et ses partenaires vous proposent des aventures, des escapades, des échappées, des expériences inédites entre culture et francophonie. Que nous réserve la nouvelle année? Qui sont nos partenaires de choix? Quelle sera la place réservée aux écrivains, aux cinéastes, aux femmes, aux comédiens, aux jeunes, aux artistes? Quels sont les enjeux? Pourquoi certains auditeurs, certains immigrants francophones remettent en question le leadership des politiciens et des chefs de file des organismes francophones? Suite au brouhaha entre Queen's Park et l'Hôtel de Ville de Toronto, quelle sera la place accordée aux francophones? Qui sont les défenseurs, les vrais défenseurs des droits des francophones de la grande région de Toronto? Avec le réchauffement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes, que font nos gouvernements? Que font-ils? Selon vous, est-ce que nos gouvernements en font assez pour améliorer le climat social, le sort des réfugiés et des immigrants? Pouvons-nous et devons-nous leur faire confiance? Vous êtes femme, nouveaux immigrants, étudiants, membres de la communauté LGBTQ2 ou personnes âgées? Quels sont vos organismes, vos médias ou les services préférés? Chaque dimanche, Potpourri Show et ses collaborateurs et ses médias partenaires vous invitent à faire un voyage intercontinental de 11h à 13h en direct sur www.cut.fm et pour nous joindre en direct potpourrichaud@cut.fm, potpourri@cut.fm. L'été ne se termine jamais vraiment, n'est-ce pas Sloan? Il change simplement d'endroit. Mais oui. Et oui, après le succès du passage du professeur écrivain autochtone Ross Tremblay, malheureusement la communication n'était pas très claire parce qu'il est quelque part à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Et nous à Miami et Toronto, ça peut être un peu compliqué. Il nous envoyait un très beau message. Et tenez-vous bien, madame, monsieur, professeur Ross Tremblay sera parmi nos partenaires et invités de marque tout au long de la nouvelle saison. Bonjour professeur et merci d'être là. Édition spéciale un peu aujourd'hui, on parle de rentrée littéraire. Et oui, chaque semaine, on vous présente un artiste, un écrivain. Et aujourd'hui, c'est l'écrivain congolais Alain Mabankou, très controversé même en Afrique. Il est professeur aux États-Unis, il est écrivain et publie ses livres, ses œuvres dans le monde francophone, l'espace francophone. Il nous présente son nouveau roman, Les cigognes sont immortelles. Il nous dresse un portrait de l'Afrique d'aujourd'hui qu'il estime être aux prises avec la vision coloniale de l'histoire de et la francophonie. Collaboration spéciale, le magazine littéraire Francosphère.
Francosphère. Dominique Rodret.
Bonjour, Alain Mabankou est partout et donc aujourd'hui chez vous, chez nous dans Francosphère, pour l'écrivain franco-congolais, la vraie francophonie reste à faire. En attendant, il porte le fer contre la francophonie d'aujourd'hui qui, selon lui, fleure bon la colonie. Alain Mabankou vient nous voir pour son éternel retour chez lui à Pointe-Noire. Son dernier roman s'appelle « Les cigognes sont immortelles », mais le camarade président ne l'est pas. Toute l'histoire se concentre sur les trois jours de mars 77 qui suivent l'assassinat de Marianne Gwabi, dont la mort menace directement la famille du narrateur, à commencer par maman Pauline. Dans son goût de l'enfance, Anne Bonneau étreint le goût sans goût. Raymond, le Martiniquais, se souvient d'un esquimau qu'il n'a pas mangé car il lui a été ôté de la bouche par sa sœur aînée. Dans sa bonusphère, Patrice Elidikozak est allé voir Fuck America. Nous verrons ce qu'en pense Mabankou l'Américain. Enfin, notre invité pourra suivre Jean-Marie Chazot de l'autre côté du fleuve Congo, en RDC, ex-Congo belge. Il est question des belgicismes dans son Speak French.
Francophonie ?
Qu'est-ce que ça dit ?
Francophone ?
Qu'est-ce que ça donne ?
Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
Nous allons revenir sur votre divergence de fond avec la francophonie officielle. Mais d'abord, dans votre roman, il y a le bon usage du français dans lequel excelle votre père adoptif, Papa Roger, qui ne parle pas le Mounoukoutouba de Pointe-Noire, mais un français avec des mots que même les Blancs se demandent s'ils sont dans leur dictionnaire. Papa Roger, c'est une sorte d'Aimé Césaire de l'oralité ?
Je pense que c'est une sorte d'Aimé Césaire de l'oralité.
Quoique encore que je pense que Aimé Césaire tient son oralité aussi de l'Afrique, qui a été amplifiée par l'expérience insulaire, parce qu'il y a toujours une substance quelque part. Donc pour moi, Papa Roger symbolise celui qui m'a tendu le bâton, celui qui m'a donné à voir le monde et aussi à écouter le monde. Donc c'est pour moi l'un des orateurs, il parlait souvent à Munkutuba, beaucoup en français, c'est l'un des orateurs qui m'auront le plus marqué.
Et il écoute le monde à la radio, alors il écoute la radio nationale, mais pour être mieux informé, il écoute la Voix de l'Amérique. Il n'y a pas encore RFI à ce moment-là?
Il n'y a pas, je n'ai pas le souvenir qu'on ait écouté une radio française, mais nous écoutons La Voix de l'Amérique parce qu'elle émettait en français. Je pensais à l'époque que c'était juste derrière la maison, mais en réalité c'était l'Amérique qui essayait d'étendre son expansion en Afrique. Nous sommes dans les années 70, l'Amérique est bien consciente que le monde est toujours un peu divisé entre le bloc communiste et le bloc socialiste. Par voie des conséquences, la puissance étrangère qui a le monopole de l'information va directement vers les populations. Donc les États-Unis ne voulaient pas laisser à la France le monopole de l'information, donc nous avions cette Voix de l'Amérique. Et pour les Congolais, c'était intéressant de voir qu'on pouvait avoir des informations qui ne venaient pas forcément de Paris, mais des États-Unis.
Il y a aussi le russe que vous apprenez dans un Congo très soviétisé, pour entonner le chant des cigognes, mais votre alter ego dans le livre, Michel, lui, il dit « on dirait que le russe est une langue normale, alors qu'elle n'arrive pas au talon du français ». C'est aussi votre avis?
Mais je pense que c'est mon avis. Et on verra même que on a peut-être tort de me faire du procès parce que quoi que je fasse, je suis toujours dans cette défense de la langue française. Et je suis toujours dans cette admiration d'une langue qui porte le monde très haut. Donc, je pense que mon père m'aura appris beaucoup de choses qui n'étaient pas toujours dans les dictionnaires.
Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Alain Mabankou, il y a peut-être quelqu'un qui peut quelque chose pour vous. C'est Corinne Alexia dans son portrait, coupé décalé.
Qui ne connaît pas Alain Mabankou? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Ancien bachelier du lycée Karl Marx à Pointe-Noire, 10 ans juriste à la Lyonnaise des Eaux et client préféré du bachelor, le roi de la sape à Paris. Alain Mabankou est ouvert à tout, sauf à la francophonie institutionnelle, ce qui ne l'empêche pas d'enseigner la littérature francophone dans les meilleures universités américaines, ni de prononcer une leçon inaugurale au Collège de France, ni même d'entrer dans le Petit Larousse. Il trône en première page de la lettre M, son nom figure dans la colonne du milieu, avec à sa gauche le traité de Maastricht et à sa droite Macbeth, les Maccabées et le maccartisme. Pour trouver Emmanuel Macron, il faut tourner la page. Et c'est justement ce qu'Alain Mabankou attend du président, qu'il tourne la page d'une francophonie aphone sur les droits de l'homme.
Nous y voilà, Alain Mabankou.
Très très beau portrait, hein, bravo.
Donc cette francophonie dont vous avez la phobie et à laquelle vous ne voulez pas servir de caution. En quels termes Emmanuel Macron vous avait-il sollicité pour en faire partie?
Je pense que c'était toujours en des termes vagues. Il faut participer à la rénovation de la francophonie et de la langue française. Déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse une distinction. Je ne suis pas l'ennemi de la langue française. Je travaille dans la langue française, j'enseigne la langue française, je reconnais son aspect international, et la langue française n'appartient plus aux Français. Et de toute façon, si on fait les calculs, le nombre de gens qui parlent la langue française à l'extérieur de la France est plus impressionnant que ce que qu'on nous laisse croire. Je sais pas, en France ils sont 66 millions. Comparé aux 380 ou presque 400 millions, la France devient une petite parcelle qui s'exprime en français.
Votre principal reproche à la francophonie, c'est de perpétuer la France-Afrique qui a été mise en place par celui que vous appelez le sorcier blanc, Jacques Foccart, issu d'une famille de Béquet de Guadeloupe d'ailleurs.
Ma critique s'adresse plutôt à la francophonie que j'appelle institutionnel. Ça ne veut pas dire que je prends un couteau et que je plante dans le cœur de la francophonie. Non, ce que je souhaite, c'est que une francophonie puisse aussi incarner l'esprit de la liberté d'expression, l'esprit de la démocratie. C'est pour cela qu'il faut dissocier la langue française qui contient les éléments de la démocratie, de la francophonie dans laquelle siègent beaucoup de dictateurs. Si vous siégez avec un dictateur, c'est que vous le cautionnez. puisque qui vote la secrétaire à l'Organisation internationale de la francophonie, ce sont les chefs de gouvernement, ce sont les ministres, je ne sais pas. Et parmi ces chefs de gouvernement, ces présidents, il y a 80% des dictateurs africains. Donc moi, je voudrais dire que la libération de l'Afrique passe aussi par l'éradication de ce système qui consiste à museler l'expression africaine.
Alors la francophonie institutionnelle, elle est représentée à l'heure actuelle par Michaël Jean, canado-haïtienne, qui remet son mandat en question bientôt à Erevan, en Arménie. Elle n'est pas la favorite pour cette réélection. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour bien exercer cette fonction?
Je pense que pour la qualité qu'il faudrait, c'est quelqu'un, ou on ne dit pas quelqu'une, je n'aime pas trop, c'est un homme ou une femme qui pourrait incarner les valeurs de la liberté et dont le pays d'origine ne serait pas peut-être une sorte de lieu d'où viendraient les décisions. Je pense que la qualité principale, c'est cette ouverture, c'est cette sorte de détachement de son pacte national pour être au service de l'ensemble de la francophonie. C'est pour cela que j'en appelle souvent à la francophonie des peuples, celle qui serait élue par les pays francophones, bien entendu, y compris la France.
Quand il est président, Marianne Gwabi aligne les positions de Brazzaville sur celles de Moscou. Mais pour autant, est-ce qu'il coupe les ponts avec la France, lui qui est une femme bien française, Clotilde Martin?
Mais non, on ne coupe pas le mariage. Les relations humaines ne peuvent pas être prévues. On ne peut pas prévoir en se disant comme on fait dans la météo de France O, en disant que demain il y aura l'orage ou il y aura quelque chose, il y aura du soleil. Quand vous aimez quelqu'un, peu importe qu'il soit pygmé, qu'il soit blanc, qu'elle soit blonde ou qu'il soit blond. Donc l'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc dans ce sens, je pars toujours de ce principe-là.
Si ces militaires tombent sur moi, est-ce qu'ils vont penser que je complote alors que je suis seul et que, si on réfléchit bien, il faut au moins deux personnes? Une seule personne ne peut pas comploter avec elle-même. Ils vont alors se dire « Écoutez les gars, laissez-le passer. Il n'a pas encore de barbe, comme les maquisards de l'ethnie des Lari qu'on chasse et qu'on bombarde là-bas, dans la région du Poule. Lui, c'est un pauvre jeune garçon qui n'a peut-être pas encore mangé et qui rentre chez lui. Et ce n'est pas à son âge qu'on assassine les présidents de la République dans ce pays. » Ils vont ricaner pendant que moi je vais poursuivre ma route à la recherche de Mbouamabé. Mais s'il y a quand même leur chef qui veut démontrer aux autres militaires que c'est lui qui est chargé de faire respecter les consignes du couvre-feu et qu'ils doivent m'emmener au cachot pour me fouetter avec un câble de moto bécane AV42. Eh bien, j'expliquerai à ce chef que moi, Michel, je cherche Mbouamabé, qui est parti de la maison parce qu'il a eu très mal au cœur quand il a entendu la mauvaise nouvelle à la radio, alors que les autres chiens sont peinards chez eux, surtout les chiens des capitalistes noirs, qui se moquent de la mort du camarade président Marianne Gwabi. C'est ces chiens-là qu'il faudrait fouetter avec un câble de motobécane AV42.
Extrait du roman d'Alain Mabankou, « Les cigognes sont immortelles », lu par Christophe Parfait. Qu'est-ce qu'un gamin de 11 ans, que vous étiez aussi, pouvait comprendre de ce coup d'État?
Je pense que on sous-estime souvent la faculté des adolescents de pouvoir percevoir le monde. Peut-être qu'ils ne posent pas les mêmes mots que les adultes, mais la compréhension est très très précise. Dans cette naïveté, dans cette langue de cet enfant qui semble un peu rêveur, se cache peut-être une vérité que même les livres d'histoire ne pourraient jamais atteindre.
Et que vous permet justement, Alain Mabankou, le passage par le roman par rapport à un livre de souvenirs sur cette même période?
Moi, je pense que le roman permet quand même une possibilité de rêve. Moi, je pense que quand vous lisez quelque chose qui ne vous permet pas de rêver, c'est que vous passez votre temps. Le rêve, c'est ce qui nous donne l'enthousiasme de créer quelque chose qui va venir. Mais l'ennui, c'est souvent de lire quelque chose dans lequel c'est plat, c'est insipide. Et moi, j'ai voulu passer par le biais du roman pour faire entendre l'histoire du Congo, de la France et même du monde. C'est un roman aussi dans le sens de l'exaltation du courage de la femme africaine ou de l'homme, du mari africain.
coup d'État, couvre-feu de ces jours de mars 1977, vous gardez une impression de grande peur ou bien de relative insouciance dans une situation sans dessus-dessous?
On garde toujours la peur, d'autant plus que, comme on le voit dans Les Cigognes, sont immortels, et que la famille, la petite famille qui est la nôtre, est inquiétée parce que quelqu'un de la famille est impliqué.
Oui, et le frère de la mère.
Le frère de la mère, qui était le capitaine Kimbolankaya, est impliqué dans le coup d'État. Donc forcément, il y aura des exécutions à suivre. Donc on vit dans une certaine angoisse, une certaine inquiétude qui ne peut pas baisser tant qu'on n'a pas retrouvé les assassins de ce président-là.
Francosphère, Dominique Rodret.
Nous sommes en compagnie d'Alain Mabankou pour son nouveau et excellent roman « Les cigognes sont immortelles » au Seuil. Avant de revenir au Congo des années 70, nous plongeons dans la Martinique d'antan longtemps grâce au goût de l'enfance de Roger, recueilli et sonorisé par Anne Bonneau.
Je crois que je vais parler d'un non-goût en fait.
Vous m'en direz tant.
Il y avait deux catégories. Il y avait le frozen, ce qu'on appelait le frozen, qui est de la glace pilée avec du sirop. Et le frozen était moins cher que l'esquimau. L'esquimau, c'était déjà le luxe, avec le chocolat autour.
Vous croyez que ce n'est pas par snobisme que je vous dis ça?
Quand j'étais petit, ma sœur avait l'habitude de faire des économies, beaucoup plus que moi, qui était un peu dépensier. De nos maigres économies, je dois dire, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Et un jour, elle achète deux esquimaux. Quand on me donnait mon argent de poche, je me payais un esquimau. Et elle économisait plus que moi et elle achetait deux esquimaux à la fois parce que le goût d'un seul esquimau n'était peut-être pas bon. Il lui en fallait deux pour bien apprécier.
Je crois que je suis jaloux.
Et elle avait l'intention de manger toute seule ces deux esquimaux.
J'ai mes sentiments pareil que tout le monde.
Si bien que quand moi j'ai vu qu'elle avait deux esquimaux en main, j'ai eu d'abord l'impression qu'elle allait m'en donner un, ce qui n'a pas été le cas. Et quand je lui ai demandé de m'en donner un, elle a systématiquement refusé. Moi, j'ai insisté, jusqu'au moment où mon père est passé. Mon père, en juge équitable, a trouvé que ma sœur aurait dû finalement m'en donner un. Donc, il a intimé à ma sœur l'ordre de me donner l'esquimau. Donc, elle m'a donné un esquimau. Et sur ce, mon père est parti. Et ma sœur a jeté mon esquimau et m'a donné un grand coup dans la main en jetant mon esquimau, et elle m'a dit, de toute façon, tu le mangeras.
Et comme je vous en ai voulu.
Donc, c'est un non-goût. La frustration.
Il y a une histoire de père, comme chez Alain Mabankou, dont le père s'appelle Roger, mais là, c'est Raymond le Martiniquais que nous venons d'entendre. Alors vous, Alain Mabankou, vous étiez enfant unique, pas de sœur, pour vous faire des misères avec les bonnes choses, ça vous a manqué?
Non, ça n'a pas manqué parce que je ne mesure pas qu'est-ce que le sentiment d'avoir un frère ou une sœur. Je suis né tout seul, donc du coup...
Ce qui était rare, non, voilà. J'imagine.
C'était très rare, mais la solidarité africaine faisait que cette rareté ne me pesait pas tant.
La famille s'élargissait vite.
Je pouvais aller manger chez le voisin, je pouvais dormir chez le voisin, je pouvais passer un mois chez le voisin. Ça ne dérangeait pas ma mère, ça ne dérangeait pas mes parents. Donc, je n'ai pas connu le sentiment d'avoir un frère, d'avoir une sœur. Jusqu'alors, je me demande ce que les gens ressentent quand ils ont des parents.
Et un esquimau, on pouvait se damner pour un esquimau dans le Pointe-Noire des années 70?
Je pense que oui, on pouvait se damner. Moi, je ne mange plus de la viande, donc je pense que...
Vous êtes végétarien?
Pas végétarien, puisque je mange quand même du poisson et de temps en temps du blanc de poulet, mais c'est simplement par souci de santé qu'il faut se maintenir et que je pense que la viande a parfois beaucoup de choses qui ne sont pas positives pour la santé.
Beaucoup de goûts de l'enfance possibles dans votre roman. D'abord celui des fruits. Quel était votre favori entre ceux qui poussaient dans le jardin, les mangues, les papayes, les oranges?
C'est surtout les mangues, puisqu'on voit dans le roman, on discute sous l'arbre qui est le manguier. Donc c'était surtout la mangue et j'étais pas obligé d'aller au marché pour acheter une mangue. Il suffisait que je grimpe et que j'attrape une mangue ou bien que j'attende que le vent le soir puisse secouer les branches et puis il y aura toujours des mangues mûres par terre.
Alors maman Pauline faisait un excellent porc aux bananes plantain, de la morue à la pâte d'arachide. On tenait d'ailleurs les hommes par le ventre. On voit dans votre roman trois oncles annonciateurs, deux mauvaises mauvaise nouvelle, mais à qui ça ne coupe pas l'appétit quand il goûte à la cuisine de votre mère?
Ventre affamé n'a point d'oreille. Et je pense que quand on a faim, même si on a eu une catastrophe, on va quand même manger et puis on va pleurer tout de suite après. Et je pense que la faim, qu'elle soit coupée, elle ne sera pas coupée pendant 24 heures.
Indépendance, cha-cha, Tozoumiye, Okiwaza, cha-cha, Toubakidi, au table rond, cha-cha, Baganyeo, Onipada, cha-cha, Tozoumiye, Indépendance, cha-cha, Tozoumiye, Okiwaza, cha-cha, Toubakidi, au table rond, cha-cha, Baganyeo, Onipada.
Grand Calais dans Indépendance, Tcha-Tcha, un morceau que vous citez dans votre livre, Alain Mabankou. La nouvelle identité congolaise, elle s'est faite en grande partie sur la musique?
Elle s'est faite sur la musique. Quand on écoute le Grand Calais chanter Indépendance, Tcha-Tcha, c'est aussi la libération de l'Afrique, c'est aussi l'espoir qui s'en suivait. Mais par la suite, on ne savait pas qu'il y aurait le crépuscule de ces indépendances. L'Afrique pensait être libre, mais finalement, la joie n'aurait pas duré pendant longtemps. Et la musique, au moins, adoucissait les mœurs. Et l'influence que je trouve aussi dans ces Calais, c'est aussi non seulement par la parole, ils chantaient l'indépendance, mais aussi par le rythme. Et ça donnait ce qu'allait devenir aujourd'hui la rumba congolaise.
Elle est née quand exactement, la rumba congolaise?
La rumba congolaise, disons qu'elle a connu ses lettres de noblesse à l'époque des Calais et autres. Hein, les Calais, les Paul Kamba, puis plus tard avec les Taboulés, les Franco et autres. On peut voir ça pendant la colonisation et après les indépendances. Mais c'est la même musique qui est aujourd'hui devenu le ndombolo. On a gardé le rythme que vous entendiez à la fin qui fait ça. On regarde ce ton et puis on compose ensuite. C'est comme un peu du zouk congolais. Le zouk a sa rythmique et puis les musiciens viennent rajouter tout ce qu'ils veulent.
Vous faites de la musique vous-même?
Je suis producteur de musique, oui.
Et est-ce qu'on entendait beaucoup de variétés françaises, tiens, sur la radio nationale du Congo dont on parlait en 1977?
On écoutait des variétés, mais vous savez, on était socialistes, donc on écoutait beaucoup communistes.
Jean Ferrat, alors?
Non, on écoutait beaucoup plus la musique russe, les chansons révolutionnaires. Et puis, il y avait les groupes vocaux qui faisaient des chansons pour la révolution. Et ces chansons-là, eh ben, c'était nous, les pionniers de la révolution, qui chantions et on passait à la radio. Passer à la radio était une récompense. C'est pas comme aujourd'hui, vous m'invitez, comme ça j'arrive, tout dégingandé, je m'assois et je parle. Autrefois, on disait que si vous travaillez bien à l'école, vous allez aller chanter le nom du président à la radio.
Les gens se regroupaient pour faire de la musique dans leur parcelle, oui, ou leur maison en attendant?
Ah oui, la musique était en plein air. Parce que nous, on payait même les répétitions. Quand les musiciens répétaient, on payait pour aller voir les répétitions. Ici, on paye pas les répétitions. On attend de jouer à l'Olympia. Mais les répétitions, parfois, il y avait plus de monde que pendant le concert.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire?
Le bonus fer culturel de Francosphère.
Patrice Elidi-Kozak est allé combler ce sentiment de vacuité en assistant à une représentation de Fuck America d'Edgar Ilsenrath. Il nous en rend compte.
New York, les années 50. Jacob Bronski, émigré juif, survivant de la Shoah, se met en tête de devenir écrivain. Mais Jacob Bronski n'a rien, il a à peine un toit au-dessus de sa tête, il n'a pas de travail, pas d'argent. Pour tout dire, Jacob Bronski refuse de vivre selon les règles du système. La nuit, il ne rêve pas du rêve américain. Finalement, Jacob Bronski se retrouve en situation de survie, tout comme dans son Europe natale à l'avènement du nazisme. C'est l'argument du savoureux texte d'Edgar Ilsenrath, au titre plus que provoquant, Fuck America. C'est aussi cet argument qui intéresse le metteur en scène, Laurent Mindon. Bronski est en pleine errance, il vit au jour le jour, il y a un trou dans la vie de Bronski, quelque chose s'est perdu dedans. Tout cela est bien bien sérieux, me direz-vous, mais on rit beaucoup dans Fuck America. L'humour du romancier, adapté pour la scène, accentue le regard tendre et sans complaisance sur le personnage de Bronski, dépeint jusque dans ses frustrations sexuelles. Un beau travail, quasi psychiatrique, autour des thèmes des traumatismes liés à la migration, à la survivance et à l'écriture comme un refuge en soi.
Vous partagez, Alain Mabankou, votre vie entre les États-Unis, la France. Pour l'intellectuel que vous êtes, qu'est-ce qui fait la différence entre les ambiances françaises et états-uniennes?
Je pense que pour moi, c'est une complémentarité. En France, j'ai ce sentiment que j'embrasse une certaine culture qui a une longue tradition, qui a des repères et qui se voit sur le plan de l'architecture, sur le plan de la musique et autres. Aux États-Unis, c'est vrai, mais je suis en présence d'un conglomérat de cultures qui sont arrivées les unes après les autres, même s'il manque cette sorte d'unité peut-être architecturale. Mais je pense que pour moi, je suis devenu comme celui qui a besoin de deux béquilles pour marcher. Les béquilles, la béquille française et la béquille américaine, sans oublier au milieu de tout ça l'Afrique.
Le Congo. Où est-ce que vous vous sentez le mieux compris en dehors du Congo, entre France et États-Unis?
En dehors du Congo, entre la France et les États-Unis, je pense que je suis beaucoup compris en France quand même, mais je suis aussi compris aux États-Unis puisque mon message, il ne change pas. Mes livres, qu'ils soient écrits en français, sont traduits aux États-Unis. Les amis qui me font des petits papiers ou bien des félicitations sur les couvertures qu'on appelle les blurbs, c'est les mêmes, que ce soit les Uzondima Iweala du Nigeria ou Salman Rushdie qui sont des amis. Je pense que le message, il est compris puisque j'étais même allé défendre aux États-Unis Charlie Hebdo qui avait reçu le prix pour la liberté d'expression.
Et vous, que comprenez-vous le mieux, Alain Mabankou, la mentalité française ou la mentalité américaine?
La mentalité française, c'est naturel pour moi puisque elle a squatté mon pays d'origine, le Congo, depuis fort longtemps. J'écris en français, je pense en français dans mes langues africaines, et l'Amérique est une superposition, est un prolongement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi d'Amérique sans la France. Donc c'est les deux narines même d'un même nez.
Les comprend-on tous bien, les belgicismes dont Jean-Marie Chazot va nous donner un aperçu dans son Speak French?
Les belgicismes, des mots et expressions issus du wallon, du vieux français, du flamand qui n'existent pas dans le français de France. Un belge d'origine française, Fabrice Armand, en a fait une série très graphique, à la fois pédagogique et décalée, visible sur l'internet, La Minute Belge. Une première saison rassemble 42 très courts épisodes dessinés avec une voix off à l'accent bruxellois pour expliquer quelques-uns de ces belgicismes, comme ici le mot « dikkenek ».
« Dikkenek » vient du flamand « dik » qui veut dire « gros » et « nek » qui signifie « coup ». Donc « dikkenek » veut dire littéralement « gros coup ». L'équivalent en France serait l'expression « avoir la grosse tête ». Mais vu qu'en Belgique, on a un petit complexe d'infériorité, nous, c'est le coup qui est gros quand on est trop vantard.
Il y a aussi mop pour le balai serpillière, chipoté pour farfouiller, frouchelet pour magouiller, ou le joke, les toilettes.
On utilisera aussi le terme les water pour parler des WC. Ouais, parce que chez nous, on ne dit pas W, mais ouais, comme dans BM, ouais. C'est plus court.
Très courte aussi, ces scénettes animées du pays de la BD, à peine plus d'une minute, comme son nom l'indique. La deuxième saison arrive, oufti, comme on dit dans l'épisode 23.
Parlait-on un français différent à Brazzaville et à Kinshasa, respectivement colonisés par la France et la Belgique, Alain Mabankou?
Oui, je pense que c'était... Il y avait des différences. Hein. Au Congo, on ne dit pas les 70 et les 90, ça se voit toujours. Mais il y a eu des influences respectives. Tout à l'heure, on a entendu, au lieu de dire WC, on disait WC. Et WC, c'est jusqu'au Congo-Brazzaville. Donc nous, on a dû piquer ça du côté de ceux qui étaient alors des Aïrois. Il y avait une interpénétration dans les langues, la langue française officielle, puis les langues un peu métissées, mais qui sont toujours le français, avec l'introduction des tropicalités.
Alors justement, existe-t-il des congolismes dans la façon de parler le français, comme les belgicismes par exemple?
Oui, il existe beaucoup de congolismes. Le plus connu, le plus cocasse, c'est toujours le bureau, qui est sa maîtresse. Si, quand on a deux maîtresses, on dit deuxième bureau, trois maîtresses, troisième bureau, etc., etc. Ou bien quand on va à la maison, on dit je vais au palais. Et donc la maison, c'est le palais. Il y a Le français, je pense que croit toujours qu'un mot est figé et on a du mal à croire que quand un mot voyage, il peut faire l'amour avec n'importe quel mot et donner un enfant qui est très métissé. C'est ça aussi la langue française et c'est ça que je prêche pour la francophonie.
Alors toute dernière chose, qu'est-ce que vous conseillez à votre ami de l'Académie, Dany Laferrière, comme mot nouveau à introduire dans le dictionnaire de l'Académie française ?
Le laferrisme, le laferriérisme. Je pense que ça serait une doctrine de la décontraction, de l'éclat du rire et peut-être même de la convivialité.
Oui, qui pourrait avoir comme synonyme le mabanquisme. Merci beaucoup Alain Mabankou.
Merci.
Je recommande chaudement votre dernier roman, Les cigognes sont immortelles au seuil. Merci à Corinne Alexia, Christophe Parfait, Anne Bonneau, Patrice Elidicozac, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessomme.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra ben la cosa, ding et dong.
Non, ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
Hé hé, le 28 octobre, ça s'annonce. Fatoumata Kouyaté, la femme griot du Mali, sera au rendez-vous, madame, monsieur. Un spectacle, un concert à ne pas rater pour rien au monde. J'ai deux billets pour vous, si cela vous intéresse. Lula Lounge, dimanche prochain, le 28 octobre, dès 20h. Deux billets pour vous. Lula Lounge. Il y aura aussi d'autres artistes, Mabindi Silla, originaire de la Guinée-Conakry, et la belle, charmante Blandine, chanteuse-interprète canadienne, originaire du Congo, très connue à Toronto et à Montréal, sera de la partie. Une paire de billets donc, pour les membres de la radio, gracieuseté des organisateurs et producteurs, Batuki Music Society, et Lula Music and Arts Center and Polyphonic Ground. Vous pouvez réserver vos places et aussi aller souper hein, pendant le spectacle. Allez sur le site de Lula Lounge, www.lula.ca, ou encore téléphoner directement à Lula Lounge, 416-588-0307. Qui veut aller au spectacle, au concert Fatoumata Kouyaté? À ne pas rater, dimanche prochain, CIUT 89.5 FM, l'émission, la radio qui fait voyager ses auditeurs.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT FM 89.5 presents the esteemed Icelandic North American collaboration concert Reykjavik Calling on Saturday, November 3rd at the Hideout, 423 College Street. The lineup will feature Icelandic's Vuk, a sub-heavy electronic band with a pop indie twist, and Bernstein, a champion of jagged electronic sounds woven with hypnotic analog theremin solos. The rising Icelandic talent will be joined by local Toronto act Woodpigeon. The concert is open to the public and admission is free, so join us for Reykjavik Calling on Saturday, November 3rd at the Hideout, 423 College Street.
Hi, this is Ken Stauer, station manager for CIUT-FM. I'd like to remind our listeners that the Sound of Your City membership drive campaign is fast approaching. The on-air drive will take place from November the 12th through to the 18th. We are looking forward to your financial support. If you love what you hear and if you value the creative programming that is offered on CIUT-FM each and every day, then I would encourage you to make your donation today. You may do so at our secure server, CIUT.FM. Just click on the Donate Now button. All donors will be eligible for the exciting grand prize draw of return airfare for two to Iceland with hotel accommodation included and more. So please help us make this membership drive campaign a success. You can help us do so by donating in advance right now at CIUT.FM. CIUT FM 89.5, bringing you the sound of your city every day.
CIUT 89.5, Toronto.
Et oui, madame, monsieur, nous attendons vos appels. Sloane est ici. Bonjour, Sloane. Vous êtes très loin de Miami à Toronto. J'arrive pas à vous voir correctement. 86-946-7000. La danse des canards. Vous connaissez, Sloane? Après la danse des canards, c'est la danse des candidats. Et aujourd'hui, nous recevrons monsieur Carole Jolin, président de l'Assemblée de la Francophonie, Pablo Mana Sandoval, qui est candidat à la présidence de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, très jeune encore. Marc-Albert Cormier, qui veut prendre la place de John Tory, qui veut devenir maire de Toronto, candidat aux élections municipales de Toronto. Et enfin, professeur Thomas Spears, qui va rendre hommage à sa façon à ce grand réunionnais conteur Daniel Honoré, décédé cette semaine. Ne partez pas, soyez des mots.
Michael Ponge.
Et à la une, les prolongations en Afghanistan. Plusieurs centaines de bureaux de vote rouvrent leurs portes ce matin pour permettre aux électeurs de choisir leurs députés. La journée d'hier a été marquée par de très nombreux dysfonctionnements, mais aussi toute une série d'attaques des talibans. Pas question de revenir sur les contrats d'armement. Donald Trump ménage sa relation avec Riyad malgré l'affaire Khashoggi. Le président américain réclame cependant plus d'informations. Donald Trump qui annonce vouloir revenir en revanche sur un traité sur les armes nucléaires passé avec la Russie il y a plus de 30 ans. Et puis dans l'actualité aussi, Pegida qui fête ses 4 ans en Allemagne et une marée humaine hier à Londres pour demander un nouveau vote sur le Brexit.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Et oui, c'est l'heure du choix. Demain, lundi 22 octobre, les élections scolaires en Ontario ainsi que les élections municipales. Après la danse des canards, c'est la danse et la valse des candidats. Et en premier lieu, nous allons parler bien sûr de ce prochain congrès qui aurait pu être aussi un sommet de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario qui démarre fin de semaine. Nous allons voir pourquoi l'Ontario a boudé le dernier sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie. Et nous aurons le plaisir d'accueillir le président sortant de l'Assemblée de la Francophonie, monsieur Carole Jolin, qui aspire, hein, mon cher ami Sloane, il veut avoir un autre mandat. Pourquoi monsieur Jolin veut rester président? Alors peut-être il y a des choses qu'il n'a pas accomplies encore. Peut-être il a plusieurs tours dans son sac, plusieurs jeux dans son sac, madame, monsieur. Et nous avons reçu beaucoup de réactions et beaucoup de questions. Les gens sont friands de la francophonie de l'Ontario. Et oui, le prochain sommet de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario ayant pour thème « Innovons ensemble, partenariat, collaboration et innovation sociale » du 26 au 28 octobre à Toronto cette fois-ci. Bravo. Et non à Sudbury ou à Ottawa, qu'on aime aussi, mais c'est bien d'être un peu plus rapproché, n'est-ce pas? Et oui, notre invité aujourd'hui est monsieur Carole Jolin, qui est président sortant de mon assemblée, l'assemblée de la francophonie de l'Ontario. Monsieur Jolin, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue à l'émission. C'est peut-être la dernière fois qu'on vous a comme président sortant. Peut-être vous serez là après le congrès, mais peut-être pas, parce que je vois maintenant pour la première fois, et ça c'est la grande surprise, vous avez un concurrent dans la course.
Ouais, effectivement.
Il sera des nôtres. Quand il a entendu que vous devez passer à la radio, j'ai reçu plein d'appels de la part des jeunes. Il a des sympathisants un peu partout à travers la province, ce jeune homme.
Oui, effectivement. Puisqu'il était encore tout dernièrement, il était président de la FESPO.
Oui.
Donc, évidemment, il y a un réseau de jeunes derrière nous.
Oui, on vous aime bien, vous savez, et cela nous fait plaisir parce que vous êtes tellement accessible. Vous avez tourné à travers la province de l'Ontario, vous avez essayé de remuer un peu cette francophonie qui est trop institutionnelle, comme a dit le président français, Monsieur Macron, au dernier sommet de la francophonie. Et je pense que chez vous, il y a cet esprit un peu révolutionnaire pour faire avancer, bouger les choses. Est-ce que, après 4 ans, vous êtes satisfait de vos accomplissements ou vous avez des regrets, M. Jolin?
Ben, c'est après 2 ans, parce que c'est mon premier mandat. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Tout d'abord, la FAO est une organisation qui est vouée au développement communautaire. Mmh. Et puis la communauté nous donne bien ses priorités. C'est une question de financement accru, c'est de l'appui au fonctionnement. Et évidemment, c'est une action politique qui est dynamique et qui procure des résultats à la communauté. Donc, de ça, il y a plusieurs dossiers qui ont avancé. Ça, c'est officiel, mais on a encore beaucoup de chemin à faire.
Oui. Et y compris aussi, il faut rappeler aux gens que c'est un peu sous votre gouverne que l'Ontario, avec l'ancienne ministre de la Francophonie, le gouvernement précédent, nous avons maintenant une place en tant que membre observateur au sommet de la Francophonie, n'est-ce pas? À l'Organisation internationale de la Francophonie.
Oui, effectivement.
Oui. Et pourquoi l'Ontario n'était pas à ce dernier grand rendez-vous?
Ben, c'est un mandat qui a été donné, c'est une décision qui a été prise par M. Ford, qui avait aucun des ministères, quel que ce soit, qui allait sortir de l'Ontario tant et aussi longtemps qu'ils n'auraient pas terminé l'étude des finances qu'ils veulent faire. Et puis le sommet de la francophonie, malheureusement, tombait à l'intérieur de cet, embargo ou blocage. Et puis, Mme Jolin ne pouvait pas assister au sommet en Arménie.
Mais on aurait pu vous envoyer quand même! Vous êtes un autre ambassadeur. Vous aurez pu y aller à notre place.
Ben, j'étais présent, mais non pas pour représenter le gouvernement de l'Ontario, mais à l'invitation du conseil privé du premier ministre du Canada, j'ai été invité à joindre la délégation en tant qu'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.
Ah, c'est toute une nouvelle pour nous, ça. Je ne savais pas. Alors, vous avez... Il faut rappeler aux gens aussi que vous avez présenté récemment une mise à jour de votre livre blanc sur la santé afin d'améliorer les services pour les francophones de la province. Est-ce que ça a eu certain succès auprès de la francophonie, mais aussi les organismes qui offrent des soins et des services en santé à des francophones?
Ben, dans un premier temps, la mise à jour était due parce que le livre blanc était publié en 2014 et il y a quand même des avancées qu'on a eues de ce livre blanc-là. Par exemple, l'addition d'un sous-ministre adjoint à la santé pour les services de santé en français, quelque chose qu'on travaillait pour avoir depuis un bon moment. Donc, on a quelqu'un dans les bureaux du ministère qui travaille à l'avancement de ces services-là. Maintenant, une de nos priorités, la première qu'on avait établie dans la mise à jour du livre blanc, c'était d'avoir l'identité linguistique de la personne sur la carte santé. Et puis, tout récemment, la députée de Glengarry, Prescott Russell, Amanda Simard, a amené une motion à Queen's Park et cette motion-là a été adoptée à l'unanimité par les trois partis. Donc, dans un avenir très, très proche, lorsque les gens vont renouveler leur carte santé, l'identité linguistique va être là. Les gens vont avoir le loisir de dire s'ils veulent leur service en français ou en anglais. Et ce que ça va permettre, c'est qu'à chaque fois que la carte va être utilisée, on va savoir le nombre de francophones qu'il y a dans une région et le type de service qu'ils ont besoin. Donc, ce sont des données probantes qui nous manquaient pour être capables de desservir mieux la population à ce service en français. Et puis, enfin, on va pouvoir avoir ces données-là. Donc, c'est un bel avancé d'une des propositions prioritaires du nouveau Livre blanc.
Vous savez, avec tout le respect que je vous dois, je suis très étiré, partagé, parce que je sais vous faites un travail de titan, vous avez très peu de budget, mais de l'autre côté, je parle, moi, à des gens, à des jeunes, à des chercheurs, des universitaires, à des écrivains francophones, là, je dis, en Ontario et au Québec, et dans d'autres... Je reviens de Miami, et beaucoup de gens connaissent encore mal, ils méconnaissent la francophonie de l'Ontario. Tout ce qu'on me parle, c'est toujours le Québec, le Québec, le Québec. À RDI, par exemple, ce matin, on nous parlait du marché immobilier. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous, nos réalités en Ontario? On vient de perdre un grand historien, Monsieur Gervais. Hein? L'Ontario pleure. Un grand historien, un grand professeur. Personne, les médias hors Ontario, n'en parlent pas. Je pense qu'il y a à révolutionner un peu quand M. Macron dit qu'il faut réinventer la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Jolin, pour que les francophones sachent qu'il y a un organisme qui est là pour défendre leurs droits? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir des messages en anglais auprès des anglophones et des politiciens anglophones? Regardez ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, où les francophones ont eu toute une raclée lors de la dernière élection au Nouveau-Brunswick. C'est quand même écœurant, avec tous les efforts, tout le travail que les francophones ont accompli pendant des années en Nouveau-Brunswick, et là, ils sont en train de perdre des plumes. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous, pour renverser la vapeur?
Bien, pour un, je pense que par son dynamisme, la francophonie ontarienne doit continuer à avancer, doit continuer à se publiciser. Puis de plus en plus, au Québec, les gens sont conscients qu'il y a une francophonie hors Québec, et puis qui est notamment en Ontario, qu'on a un bon nombre de francophones. Maintenant, ce que vous mentionnez au niveau de la mort de M. Gervais, CBC en a fait la une de sa publication aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne nouvelle d'avoir qu'un journal anglais et des médias anglais ont fait une reconnaissance à M. Gervais à cet effet-là comme étant un grand leader franco-ontarien. Qui fait partie du duo qui ont créé le drapeau franco-ontarien. Donc, c'est un bel hommage, puis je pense qu'on avance dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais de plus en plus, je suis appelé ici et là à donner des entrevues en anglais. Oui. J'ai fait hier dans le cadre de la mort de M. Gervais. Mm-hmm. Et puis, des gens savent de plus en plus qu'on est là et viennent nous voir pour connaître, avoir nos commentaires sur différents points de l'actualité. Donc ça, c'est, je dirais, ça progresse lentement, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore bien des gens au Québec qui ignorent qu'il y a une francophonie vibrante en Ontario, qu'on a on est 622 340, qu'on a des institutions, qu'on a tout un réseau communautaire très, très fort, et on doit encore travailler à se faire connaître.
Oui.
Je pense qu'il y a une progression qu'on a suivie, puis ça s'améliore tranquillement.
Alors, on va terminer avec, je pense, une idée du gouvernement français qui veut créer un congrès des écrivains francophones. Vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce qu'on devrait aussi faire des efforts pour qu'il y ait des écrivains francophones qui participent à ce congrès, si jamais congrès il y a lieu, que ce soit en Afrique ou en Europe ou au Québec? Est-ce que vous allez appuyer cet effort pour qu'il y ait une présence forte et dans la diversité des écrivains francophones de l'Ontario?
Ben, je salue l'idée. C'est une excellente initiative. C'est d'avoir un congrès à cet effet-là. Mmh. Et puis j'espère, on a beaucoup d'écrivains franco-ontarien qui publie dans toutes sortes de domaines, et que j'espère justement que ces gens-là pourront participer à un tel congrès, et ce serait encore une belle occasion de montrer qu'il y a une francophonie qui est vibrante en Ontario, parce que quand on arrive dans un congrès comme ça, et puis qui voit qu'on est là, qu'on est présent, puis qu'on leur dit qu'on vient de Welland, qu'on vient de Sudbury, qu'on vient de Thunder Bay ou qu'on vient de Toronto, ils vont écarquiller les yeux et dire: ah oui, vous êtes francophone, vous venez de ces endroits-là. Oui, effectivement, puis il y a une francophonie qui est vibrante, il y a toute une communauté qui vibre. Et puis, de mon travail d'écrivain, je publie et puis j'ai un public. Donc ça ne peut être que bon pour l'Ontario.
Alors moi, je ne me lance pas dans aucune campagne électorale, mais Mes amis à Miami, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont passé le commentaire suivant. Pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas ambassadeur franco-ontarien à Miami?
Je trouve ça parce que ma famille serait pas sûr que ma famille est prête à déménager.
Écoutez, alors en un mot, ce que vous allez accomplir si jamais vous recevez un autre mandat, en un mot.
Ben, je pense que c'est un mandat de continuité. On a beaucoup de balles dans les airs, et puis il faut continuer à travailler avec nos organismes communautaires pour faire avancer nos organismes communautaires.
Je rappelle aux gens que vous pouvez aller, madame, monsieur, immédiatement sur le site www.monassemblée.ca/formulaire congrès 2018 et vous inscrire. J'espère que tous ces participants seront présents, enfin, de toutes les régions, hein, parce que vous avez des francophones de toutes les régions de la province de l'Ontario qui seront à Toronto. On leur souhaite la bienvenue et que tout se passe très bien pour eux, qu'ils rencontrent les réseaux francophones de la région de Toronto. Et peut-être un jour, qui sait, le grand bureau chapiteau de la FO sera à Toronto, parce que c'est encore un débat que j'entends dans certains, en coulisses, hein, chez certains. Ils disent pourquoi la FO ne viendrait pas, enfin, se rapprocher ici à Toronto, parce que quand même, il y a une vie dynamique à Toronto, mais je respecte aussi, hein, Ottawa et Sudbury et ailleurs. Hein, on s'entend.
On aimerait pouvoir se payer un satellite.
Allez, je vous souhaite bonne chance à monsieur Carole Jolin et un grand merci encore une fois pour tout ce que vous avez accompli et bon congrès, et on se reparle peut-être après le congrès. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et oui, les élections scolaires, les élections de la mairie de Toronto se déroulent demain, madame, monsieur. C'est votre droit. C'est ça, la démocratie. Et je vois qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent avoir un changement, hein, d'après les messages que je reçois. C'est pour cette raison qu'il faut aller voter. Est-ce que vous connaissez vos candidats, madame, monsieur? Eh oui, que faire si vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur? Les électeurs qui n'ont pas reçu leur carte d'information peuvent tout de même aller voter, soit en s'inscrivant à l'avance sur le site internet myvotetoronto.ca ou directement dans un bureau de scrutin le jour même du vote. Eh oui, et là, dans un instant, nous allons passer à notre prochain invité. Il y a un peu plus de 40 ans, un 16 février 1978, la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, FESFO, était officiellement fondée. Elle devient plus tard la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, mais conserve son acronyme déjà reconnu par tous. Mais l'idée est née un peu avant, en septembre 1977, au lac Kuchiching, près de Orillia, au centre d'animation scolaire de l'Ontario, lors d'un camp de leadership organisé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et récemment, il y a plusieurs membres, plusieurs jeunes qui sont maintenant des jeunes adultes, qui étaient au rendez-vous toujours à Kuchiching, que je connais très bien d'ailleurs. Et justement, dans un instant, nous allons accueillir l'ancien président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, qui est officiellement, croyez-le ou pas, madame, monsieur, candidat à la présidence de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Il veut déloger, mon cher Sloan, un dinosaure. Et oui, qui est ce jeune de 18 ans seulement qui veut déloger un dinosaure franco-ontarien, monsieur Carole Jolin? Pour qui se prend-il? M'a lancé une auditrice ce matin. On n'a jamais vu, on ne le connaît pas. C'est peine perdue d'avance. On verra ce qu'en pense notre invité, Pablo Mana Sandoval. Bonjour Pablo, ici CUTFM. Est-ce que vous êtes avec nous?
Absolument, bonjour. C'est mouvementé comme introduction.
Ah ben oui, parce que ici on aime réveiller un peu les gens, on veut aussi créer un intérêt, on veut que ce soit une émission interactive, afin Absolument. Que les gens participent. Parce que, non, mais quand un président français qui nous dit qu'il faut réinventer la francophonie, c'est un message quand même très fort.
C'est sûr.
Et vous, qu'est-ce qui vous a piqué? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous vous lancez dans cette campagne à la présidence de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario?
Il y a vraiment plusieurs éléments. Le simple fait que je me suis impliqué dans la francophonie ontarienne vient de cette communauté et son accueil qu'elle m'a donné, parce que je suis bien sûr originaire de Montréal, de la province de Québec, comme Carole. Et c'est vraiment la communauté franco-ontarienne qui m'a accueilli à bras ouverts, et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'impliquer, notamment avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, où j'ai pu rencontrer des jeunes de partout en province, et c'est cette jeunesse, c'est cette vision, c'est cette énergie jeune, cette vision jeune de l'Ontario français qui me pousse à vraiment apporter cette vision, cette énergie à l'Assemblée avec ma candidature.
Alors, depuis 32 ans que cette émission existe, j'entends année après année, des jeunes, des moins jeunes, des chercheurs, des universitaires, des immigrants longuement arrivés ici, très établis en Ontario et d'autres qui sont nouvellement arrivés, les gens se cherchent encore, ils ne connaissent pas l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Ils ne connaissent pas leurs défenseurs de la francophonie ici, de leurs droits en français en Ontario. Qu'allez-vous faire? Parce qu'il y a même des Noirs, des Africains francophones qui sont passés à l'émission il y a quelques années de cela, c'était dans #ONFR, qui critiquent l'establishment de la FO et qui trouvent que cet organisme ne reflète pas leur réalité et ils veulent aller fonder une autre association, une énième association. Et qu'allez-vous faire pour rassembler, être un catalyseur, être un leader pour aller rejoindre tous ces brebis perdus à travers la province de l'Ontario?
C'est vraiment la question de l'heure, n'est-ce pas? De plus en plus, je suis convaincu que la manière d'unir et la manière de vraiment répandre son message et de s'assurer que les personnes savent qu'on est là, c'est par des propositions audacieuses. C'est l'audace qui capte l'attention, c'est l'audace qui créer des histoires et qui médiatise.
Dans la réalité, qu'est-ce que cela veut dire? L'audace se traduit en quoi?
Des propositions de politiques publiques audacieuses, des demandes pour le bilinguisme officiel de la province de l'Ontario, par exemple, pour rejoindre le Nouveau-Brunswick comme province officiellement bilingue au sein de la Confédération canadienne. C'est des campus, des plusieurs campus pour l'Université de l'Ontario française, nouvellement fondée, plusieurs campus satellites dans le nord et bien sûr dans l'est ontarien. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a une réputation dans la communauté d'être un joueur plus prudent, surprudent, je devrais spécifier, et la prudence ne gagne jamais l'heure ni le combat.
Alors, vous avez été président de la FESFO, n'est-ce pas?
En effet, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne.
Et d'ailleurs, Radio-Canada a réalisé un documentaire très intéressant sur les enjeux de votre association. Il y a plusieurs membres. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, notre stagiaire ici, Sloan, faisait partie. Il étudie, comme vous le savez, au collège Glendon. Ça a donné, je pense, un petit coup de souffle à créer des nouveaux leaders. On voit la diversité, d'ailleurs, au sein de l'organisation, la FESFO. Mais comment allez-vous vous y prendre quand vous faites face aux francophones du nord de l'Ontario, par exemple, à Timmins, où il y a un exode des jeunes professionnels francophones qui n'arrivent pas à trouver du travail dans le nord de la province et qui préfèrent aller à Toronto ou encore à Montréal, au Québec ou ailleurs. Et il y a une crise, je pense, dans certaines régions où les services en français ne sont pas offerts à la communauté francophone. Au niveau des soins santé mentale, par exemple, on reçoit souvent des plaintes à l'émission ici et aussi au commissaire qui régit la commission sur les services en français de l'Ontario. Il y a tellement de dossiers très complexes. Est-ce que vous avez l'étoffe qu'il faut pour être un leader, pour aller discuter, négocier avec les politiciens, surtout avec le gouvernement actuel qu'on a, pour que justement les francophones aient leur place au chapitre des soins de santé ou encore de l'éducation, et, au niveau de la jeunesse, de l'emploi. Qu'allez-vous faire?
C'est sûr, non, mais c'est sûr que je l'étoffe. Parce que au cours des dernières années avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, le travail effectué a été énorme. La FESO a contribué largement au combat, aux plusieurs combats pour l'officialisation du statut bilingue de la ville d'Ottawa, qui était un travail de coordination, de collaboration, de concertation avec plusieurs membres de la communauté. On a grandement contribué au dossier de l'Université de l'Ontario français. On était un partenaire privilégié avec l'AFO, présentant un front uni, bien sûr avec aussi le regroupement des étudiants franco-ontariens avec l'AFO, auprès du gouvernement provincial. Ce travail s'effectue pas en émettant des communiqués de presse simplement et restant chez soi. J'ai été présent aux rencontres avec l'AFO et avec des élus provinciaux de tous les partis, plusieurs journées de lobbying, plusieurs sessions de lobbying. J'étais présent à plusieurs congrès, sessions de consultation, sessions de planification stratégique interne avec la fédération, des appels avec des partenaires privilégiés au sein de la communauté. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de me trouver dans le feu de l'action. Et on sort pas de là nouveau, on sort pas de là vert, on sort avec des compétences acquises et une vision de comment avancer, comment faire bouger les choses.
Alors vous avez 3 à 4 jours pour vous faire connaître. Pablo Mana Sandoval, l'ancien président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, madame, monsieur, qui est officiellement candidat à la présidence de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et je reçois un message qui me dit: qu'allez-vous faire pour une représentativité juste pour les minorités visibles francophones?
C'est sûr.
En Ontario.
C'est sûr. En tant que, comme moi aussi, je suis une minorité visible. J'ai un père syrien, une mère chilienne, et souvent au cours des dernières années, j'ai pris des pauses, je me suis demandé si l'Ontario français était une place pour moi, ou est-ce que je rentrais dans cette communauté. C'est des questions qu'on se pose à chaque jour, c'est inévitable, et c'est vraiment dommage que c'est inévitable, mais c'est la réalité.
Vous savez que moi, ça fait des années qu'on est là, on était là pour la commission de l'équité, sur l'équité en matière d'emploi, ça n'a rien donné pour les francophones de minorités visibles. On n'a qu'à voir que dans les médias, par exemple, à Radio-Canada ou encore à TFO, il y en avait dans le passé, et maintenant il n'y a personne qui représente la diversité culturelle. Il y a des Noirs francophones en Ontario qui sont en train de fonder leur propre télévision, leur propre radio, leur propre média. C'est quand même étrange que des gens doivent fonder leurs propres journaux, magazines, émissions de télévision pour qu'on parle de leurs préoccupations. C'est étrange. En Ontario,
c'est
si les gens n'arrivent pas...
Oui. C'est pas seulement étrange, c'est dommage, parce que c'est un symptôme d'une communauté qui n'est pas nécessairement prête ou qui essaye, mais qui ne le fait pas bien, d'inclure ces minorités visibles. C'est un symptôme de fonder les institutions alternatives. Ça divise l'Ontario français, pas nécessairement d'une manière expresse, mais ça divise l'Ontario français dans différentes factions, dans différentes communautés.
Est-ce que vous avez un site web pour les gens qui veulent avoir des renseignements sur votre programme? Est-ce que vous avez un site web pour terminer?
Pas nécessairement en ce moment, mais ils peuvent trouver toutes les informations sur médias sociaux, sur Facebook, mes posts sont publics, sur Twitter, @Pablo Mahana, MHANA. Vous pouvez me chercher là-dedans sur Facebook, sur Twitter. Et bien sûr, mon compte est ouvert au public, ils peuvent m'envoyer des messages. Et je pourrais même partager mon numéro de téléphone.
Alors, élu ou pas élu, le micro est toujours ouvert pour vous. et vos amis, la jeunesse franco-ontarienne. Vous êtes toujours le bienvenu à notre émission. On vous remercie de la part de toute l'équipe et de la part de tous les professeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite bonne chance.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci.
CIUT 89.5, Toronto.
Ça tourne pour moi quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI.
Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
Et oui, dimanche 28 octobre, c'est dimanche prochain, hein, ne pas rater, madame, monsieur. Nous avons une paire de billets pour vous pour assister au concert extraordinaire de Fatoumata Kouyaté, femme griot du Mali, et Mabindi Sula, originaire de la Guinée-Conakry, et Blandine, chanteuse-interprète canadienne originaire du Congo, seront au Lula Lounge, 1585 Dundas West, à Toronto. J'ai une paire de billets pour vous, et surtout si vous êtes membre de la radio Gracieuseté, les organisateurs et producteurs Batuki Music Society, Lula Lounge Music and Arts Center and Polyphonic Ground. Réservez vos places pour le souper, www.lula.ca, ou encore téléphonez Lula Lounge. Vous dites que vous avez entendu l'émission et vous venez pour le souper dimanche soir prochain, à partir de 19h, 86-588-0305. Soyons nombreux pour accueillir cette grande malienne griot, Fatoumata Kouyaté. J'ai hâte de la voir. Alors, devenez membre immédiatement et gagnez deux billets gratuits, gracieuseté de Batuki Music Society. Bonne chance.
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter.
Con Alexandre Héroe.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça? Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Eh oui, après la danse des canards, c'est la danse des candidats. Et la course à la mairie de Toronto s'annonce très intéressant, madame, monsieur. Quelle est la position d'ailleurs des candidats sur le français? Les quatre candidats à la mairie de Toronto les plus en vue veulent que le français prenne plus de place dans la ville reine. Mais les auditeurs n'y croient pas. C'est toujours les mêmes rengaines. On en parle. Mais dans les gestes, rien ne se passe. On verra bien. Et oui, le lundi 22 octobre, donc demain, vous avez exercé votre droit de vote. On sait que historiquement, en parlant des élections municipales, n'ont pas toujours eu la cote. Mon prochain invité est un résident, tenez-vous bien, torontois depuis 28 ans et se présente aux élections municipales dans la 11e circonscription, ce qui comprend University, Rosedale, hein, vous voyez bien. Et il évoque, dans la dernière édition de l'Express de Toronto, les mesures phares de son programme. Il a beaucoup d'ambition, ce monsieur. Et mes amis français à Miami ont eu beaucoup de plaisir à lire son entrevue dans l'Express. Je vous rappelle qu'il est aussi conseiller consulaire élus par les Français de Toronto pour les représenter auprès du consul, consul général de France. Mesdames, messieurs, accueillons avec, enfin chaleureusement, notre prochain conseiller de la ville de Toronto, peut-être, monsieur Marc Cormier. Je connais bien le film « Les dieux me sont tombés sur la tête », mais qu'est-ce qui vous est arrivé, cher monsieur Cormier, pour vous lancer dans cette campagne municipale? Voilà la grande question que se posent tous les auditeurs à Miami comme à Toronto. Bonjour.
Bonjour, et comment ça va?
Ça va merveilleusement bien. Enfin, je suis très bronzé avec le soleil, la chaleur de Miami. C'est incroyable.
Ah ben, je peux pas en dire autant. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est bien simple. Beaucoup de Français de l'étranger me connaissent par mon activité en tant qu'élu des Français de l'étranger. Oui. Et beaucoup ignorent que je suis un Canadien anglophone et je le revendique. Ma mère était originaire du Cap-Breton. Elle a grandi à Toronto, elle a étudié à l'Université de Toronto. Elle était francophile, mais anglophone. Et donc, j'ai une personnalité que les gens ne connaissent pas forcément dans le monde francophone, qui est un anglophone et qui aime s'intéresser aux questions politiques de sa ville.
Ouais.
Et au départ, figurez-vous, avec le système des 47 circonscriptions, il y avait un candidat sortant, pour ne pas le nommer Joe Crécy, qui n'avait personne contre lui.
Mmh.
Je me suis dit, on ne va pas avoir un conseiller élu à l'unanimité, ça n'a pas de sens. Bon, 5 autres personnes ont eu la même idée que moi, et entre-temps... Eh bien, les circonscriptions ont été complètement chamboulées.
Uh-huh.
Et je me retrouve donc aujourd'hui dans la 11e circonscription avec aujourd'hui 7 candidats en liste. Et comme je l'ai dit dans mes discours lors des différents débats, on n'est pas là pour se présenter les uns contre les autres. Je sais que c'est facile à dire. Mais on est là pour apporter des idées. Et si nos idées peuvent survivre à notre campagne, ben c'est ça de gagner.
Mmh. D'ailleurs, vous êtes candidat dans une circonscription immense qui s'étend de Chinatown à Rosedale. Et vous avez peut-être, vous allez représenter ou être l'interlocuteur privilégié de 110 000 personnes du jamais vu.
C'est exactement, c'est un des sujets qui revenait constamment dans ces débats, 110 000 personnes, comment pouvez-vous représenter 110 000 personnes? Alors ceux qui sont mauvaise foi vont vous dire, oh, vous savez, les députés provinciaux fédéraux le font. Oui, mais les députés provinciaux fédéraux ne gèrent pas le quotidien des citoyens. Donc c'est vrai que c'est absolument inimaginable. Alors évidemment, il y a plusieurs propositions sur la table. Est-ce qu'on va créer des conseils par circonscription? Est-ce qu'on va impliquer les associations de résidents? Est-ce qu'on va impliquer les fameuses BIA? Vous savez, c'est... des associations économiques de quartier.
Mmh.
Il y a 50 000 solutions, mais évidemment, tout ça dépendra
et
des
peut-être
moyens
aussi,
qui sont alloués.
Vous aurez, est-ce que vous aurez le temps d'apprendre le mandarin ou rencontrer la communauté chinoise?
Écoutez, j'ai fait 6 mois de mandarin, je peux à peine commander une tasse de thé. Mais mettons ça à part, il y a quand même 2 langues officielles au Canada, on ne va pas forcément communiquer dans toutes ces langues-là, mais il faudra bien évidemment avoir des collaborateurs qui connaissent tous ces langues-là, mais évidemment, il y a le mandarin, il y a le cantonais, il y a le coréen, parce que la circonscription va, bien sûr, sur jusqu'à Bathurst et Christie, au niveau de Bloor, il y a le portugais, l'italien, donc il y a une foule de langues. Écoutez, c'est pas évident de gérer. Et puis Rosedale qui est un cas complètement à part dans la circonscription.
On sait, assez huppé. Il y a des gens très riches.
Oui,
oui, oui. Alors, c'est bon d'avoir des amis dans ce quartier, n'est-ce pas? Alors, les gens m'ont dit, mais est-ce qu'il n'est pas un peu ou trop ambitieux? Vous voulez inscrire le quartier de Kensington Market au patrimoine de l'humanité?
Exactement. Et comme j'ai toujours dit dans ces débats, si le centre-ville de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, peut être patrimoine de l'humanité, pourquoi pas Kensington Market? Kensington, c'est un de ces quartiers où sont passés les Juifs, les Italiens, les Portugais, les Chinois. Il y a une foule, si vous voulez, de peuples qui sont arrivés en Ontario, qui ont commencé à Kensington Market. Il y a quand même 2 synagogues, il y a des marchés. On y trouve tous les produits internationaux du monde. C'est quand même assez exceptionnel, non seulement à Toronto, mais au Canada.
Oui.
Je ne connais pas d'autres quartiers à travers le Canada qui aient pu maintenir une identité telle, architecturelle et culturelle, aussi longtemps. On sait tous, évidemment, dans les années 70, il y avait la fameuse émission sur CBC, The King of Kensington. Donc, c'est vraiment dans notre culture, quelque part, et c'est tellement exceptionnel, à mon avis, il faudrait faire une enquête. Et d'ailleurs, figurez-vous que d'autres candidats ont déjà relevé cette proposition et m'ont dit que si ils étaient élus ou elles étaient élues, qui reprendrait ce sujet à bras le corps et travaillerait avec moi.
Ouais. Il y a une personne de Miami qui m'écrit, qui me dit, mais il est un peu caméléon ce monsieur, parce qu'il est francophone, il est anglophone, il est chinois, on ne comprend pas.
Manifestement, cette personne ne me connaît pas. Je suis un Canadien anglophone et un Français, voilà. Donc voilà. Je suis un Français-Canadien, mais je ne suis pas un Canadien-Français.
Alors, le Canada vient de légaliser le cannabis et vous allez aussi axer votre campagne sur les pollutions sonores et les problèmes de logement ou encore la question du transport.
Alors, le transport, c'est la première de toutes les questions. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, la ligne 2, maintenant, a été étendue.
On parle du métro, là. On parle du métro. On parle du métro.
Donc, évidemment, d'ici 10 ans, elle sera complètement saturée. Oui. Elle est déjà, certainement. Et il faut à tout prix. Alors, je sais qu'il y a des études très poussées qui ont été faites sur la création de cette ligne. Mais évidemment, les études, ça ne fait pas une ligne. Donc, il faut à tout prix que cette ligne soit créée dès le prochain mandat, que ça soit du maire ou des conseillers.
Et il faut trouver des dollars. Il faut trouver des dollars.
Exactement. Alors, le gros danger que l'on voit actuellement, c'est le transfert du TTC au niveau de la province. À mon avis, ça serait la pire chose qu'on puisse faire. Cette province n'est absolument pas torontophile pour commencer. On l'a bien vu à travers le changement des circonscriptions. Et transférer les compétences en matière de transport, notamment en transport urbain, TTC, à la province, à mon avis, c'est une façon détournée de casser les syndicats et de démonter le réseau. Mais bon, ça, c'est une position politique.
Oui. Alors, nous avons un autre intervenant qui nous attend à New York. Qu'allez-vous faire si jamais vous ne remportez pas ces élections? Quels seront vos prochains programmes, projets, initiatives?
Bah écoutez, je suis parfaitement réaliste. Je sais que parmi les candidats qui se présentent, il y en a un qui a été élu la dernière fois à 80%. Donc, je n'ai pas d'illusion quand même. Je suis certain que bon, il y aura certainement un gagnant très probable. Ouais. Et en conséquence, moi, tout ce que je veux, c'est que mes idées, elles survivent à ma campagne. Point. Après ça, je retournerai donc à l'enseignement, comme je suis en train de le faire en ce moment, l'enseignement en langue française, en Ontario, et puis bon, bien entendu, représenter les Français de l'Ontario, du Manitoba, au niveau des Français de l'étranger.
Donc, alors le micro est ouvert à vous. Si vous décidez de rester, de continuer votre travail en tant que conseiller consulaire, je vous offre un temps d'antenne mensuellement, comme vous le voulez. Comme ça, vous pourrez présenter vos initiatives. Il y a beaucoup d'auditeurs français
qui
connaissent encore
génial.
Mal ce que vous faites. Et je trouve que vous passez très bien à l'antenne. On reçoit beaucoup de réactions très positives. Alors, j'espère que vous pourrez avoir un temps d'antenne pour éclairer, expliquer aux Français des services qui existent et des initiatives que vous avez pour eux.
Ben, ça serait avec plaisir, avec plaisir. Donc, merci pour votre invitation.
De la part de toute l'équipe et tous les gens qui sont autour de moi, même de Miami, on vous applaudit, on vous souhaite bonne chance et bon courage à monsieur Marc Aumier.
Et surtout, votez demain. Oui. C'est égal pour qui, mais votez.
Très important, très 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 important. Au revoir.
Au revoir.
Pour un soleil de plus, Lille. À l'origine, il y eut la déesse Terre. Elle était tout. Elle était musiques et couleurs, senteurs et douceurs. Belle, mille fois belle. Et elle était grosse de l'ensemencement du Père de l'Unité. Mais le Père de l'Unité ne pouvait être que solitaire. Aussi était-il déjà reparti vers d'autres lieux de solitude, dès après avoir connu Terre, la déesse fertile. Terre était heureuse et se parait de toutes les nuances de bleu en attendant l'événement, que dis-je, en espérant l'avènement. Qui rêvait de myriades d'enfants se courant après dans l'immensité laissée par le Père de l'Unité? Terre rêvait de myriades d'enfants se courant après dans l'immensité laissée par le Père de l'Unité. Alors, elle demanda à Tan, le frère de Dieu de l'Unité, de venir vite à sa rencontre, et Tan fit son œuvre. Qui chantait de douces mélodies en se caressant le ventre arrondi et tiède. Terre se caressait le ventre arrondi et tiède en chantant de douces mélodies. Puis vint l'enchantement et naquirent deux bébés, tout joufflus, tout ronds, tout beaux, deux fillettes. Tant leurs parrains les fit grandir bien vite. Bien vite elles devinrent espiègles, joyeuses et taquines. Bien vite aussi elles devinrent adultes et perdirent leur innocence d'enfant.
L'île de la Réunion pleure la disparition de son poète Daniel Honoré, décédé jeudi 18 octobre dernier. à l'âge de 79 ans. L'écrivain et poète né à Saint-Benoît était un passionné, un fervent défenseur de la langue créole. Nouvelles, proverbes, contes, il a été également l'auteur de nombreux recueils de poésie et a notamment publié en 2002 un dictionnaire d'expression créole. Amoureux de la littérature créole, cet ancien professeur de lettres et d'anglais dans un collège de Saint-Benoît à l'île de la Réunion a toujours, dans ses textes, dans ses combats, défendu la langue créole. Il reste un incontournable auteur de contes et de proverbes rayonnés. Et il était aussi chroniqueur dans une émission radio, Gramoun l'a dit. Mon invité, pour rendre hommage à ce professeur, conteur, mon invité est professeur de français à l'Université de New York. Et nous avons le plaisir de l'accueillir pour la première fois d'ailleurs, professeur Thomas Spears. Bonjour professeur, nous n'avons que quelques minutes, mais on voulait absolument vous avoir parce que c'est très important. En plus, nous sommes dans les festivités du mois du monde créole et la semaine prochaine, nous allons célébrer la journée internationale de la langue et la culture créole. Bienvenue à l'émission et je sais que vous avez rencontré Daniel Honoré en 2009 pour un enregistrement d'une entrevue, n'est-ce pas?
Oui, bonjour Eric, c'est un plaisir d'être reçu chez vous pour les choses, surtout pour parler de Daniel Honoré. En fait, je l'ai connu bien avant, ça fait une quinzaine d'années, lors d'un premier voyage à La Réunion, je m'intéressais à cette culture et c'était une personne évidente à rencontrer, qui travaillait longtemps avec des collègues pour la promotion de la culture et de la langue créole. Donc c'était en 2004, je crois, que je l'ai enregistré la première fois sa voix, qui dit un conte en français, mais c'est d'un recueil qu'il avait fait de contes en langue créole réunionnais.
Oui. Qu'est-ce que cela vous a fait quand vous avez appris son décès? Il est mort assez subitement ou est-ce qu'il était malade depuis un bout de temps?
J'étais pas au courant du fait qu'il avait une maladie. En fait, il en souffrait. Il est parti un peu plus rapidement que des gens ne pensaient. Mais c'était quand même un choc parce que je pars le mois prochain. J'avais récemment envoyé un mot à plusieurs personnes qui font des cabars, qui font des soirées littérature et je voulais bien le retrouver parce qu'ils ont publié récemment aussi un recueil de nouvelles de La Réunion où il y a un texte de Daniel Honoré là-dedans.
Mmh. Il y a beaucoup de méconnaissance hein, de la part du monde francophone ou même du monde créole, comme j'ai beaucoup d'amis haïtiens qui sont peut-être à l'écoute dans la région de Toronto, de l'Ontario, et qui méconnaissent les Mauriciens, qui méconnaissent les Réunionnais, et encore moins les Seychellois, les Rodriguais, les gens de Agalega, Saint-Brandon. Toutes ces îles ont une culture propre et un créole particulier. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après vous, professeur, pour que justement il y ait un dialogue entre ces cultures créoles du monde entier?
Mais ces dialogues existent. Il y a beaucoup de dialogues déjà dans l'océan Indien. Évidemment, vous avez des créoles différents aussi. Quand vous parlez de langue créole, il y a des peuples créoles aussi. Mais le créole de Maurice se rapproche peut-être plus au créole d'Haïti que le créole réunionnais. Et puis, il y a des débats sur l'écriture. Et la Réunion, ils avaient à un moment donné 4 orthographes, ce qui fait qu'ils ont pris un peu de retard. Mais ça n'empêche pas que les Réunionnais ont toujours été les premiers à réussir les capes créoles en France. Mais je crois que c'est pour parler plus de Daniel Honoré, qui était quelqu'un qui était un militant politique, un militant culturel. Il y a, à partir de demain, il y a un festival de contes créoles qui se passe à Sainte-Suzanne, à La Réunion, et ils vont faire hommage à Daniel Honoré cette année, parce que c'était quelqu'un qui a fait en sorte que non seulement ça se répand, déjà chez eux, c'est important. Parce que quand vous êtes une colonie française qui est différente de la Maurice est un pays indépendant, Haïti est un pays indépendant, mais à La Réunion, les livres scolaires, ce sont des livres qui arrivent de la France, comme ils disent, de la métropole.
Voilà.
Et donc, c'est déjà important, la bataille sur place.
Ouais.
Et je crois qu'il faisait partie d'une génération qui a milité suffisamment pour que la langue et la culture du pays soient
passé, que ça se renouvelle et que les prochaines générations connaissent leur propre culture.
Vous savez, moi j'ai été chanceux, j'ai grandi, je passais beaucoup de temps de mon enfance à mon adolescence avec ma grand-mère parce que mes parents étaient en Afrique. Et cette transmission de la culture à travers les contes, à travers les histoires, n'est-ce pas, des grands-parents, c'était très fort à l'époque. Et aujourd'hui, quand je parle un petit peu avec les jeunes réunionnais, les jeunes mauriciens, ils passent beaucoup de leur temps à la télévision, sur leur portable et tout ça. Il y a moins de contact maintenant avec les ancêtres. Donc, on est en train de perdre un peu, d'après vous, parce que Daniel Lemoré était un grand conteur.
Il y a des nouvelles versions, il y a du rap, il y a du... Dans la musique, ça se fait. Et j'ai devant mes yeux là un texte que Daniel Honoré a publié aux éditions K, qui est André Robert, qui a une édition dans le sud de la France, K apostrophe A, et ça s'appelle « Faisons nos contes ». Et non seulement Daniel faisait des ateliers, il apprenait, mais ça c'est une sorte de manuel, quelques conseils, je vois devant les yeux, quelques conseils pour raconter. Et il y a des façons traditionnelles, mais il y a des façons aussi de rendre traditionnelles moderne, non seulement pour la langue, mais de toute façon, ces choses, ce sont des choses universelles et c'est une question de l'imaginaire et c'est un passage d'une culture et je pense que c'est pas forcément pareil qu'avant, mais cette culture réunionnaise est vivante et je crois que c'est grâce à des personnes comme lui qui ont montré qu'on peut garder du traditionnel et puis transformer aussi.
Oui. Alors, je rappelle, madame, monsieur, que Thomas Piez est professeur de français. Vous enseignez le français à l'Université de New York. Là, vous êtes en année sabbatique. Vous avez quand même tout un parcours très intéressant que j'aimerais décortiquer un jour. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous serez des nôtres. Et vous êtes auteur de nombreux articles sur les écrivains francophones de France, des Caraïbes, du Québec. Vous avez votre site Île en Île qui fête ses 20 ans. Et d'ailleurs, vous venez de lancer une campagne de soutien. Vous cherchez des fonds, des dons pour justement continuer ce travail parce que ce site vous donne accès, madame, monsieur, vous, à travers le monde, à un florilège de ressources très, très profond et sur les cultures des Caraïbes et des écrivains francophones à travers le monde. Vous faites un travail extraordinaire. Vous nous donnez le titre de votre site web, s'il vous plaît?
C'est Île en Île, les gens vont pouvoir le trouver facilement et c'est surtout aujourd'hui, je vous remercie d'en parler, des 20 ans de la campagne. Et je crois que juste pour commencer, pour connaître un peu Daniel Honoré, c'est un exemple où vous pouvez écouter sa voix, vous pouvez, il y a une vidéo, il y a audio, mais aussi la bibliographie, comme ça les gens connaîtront peut-être un peu mieux. Non seulement ces textes, mais les éditions, des choses expérimentales que certaines réunionnais faisaient à l'époque, comme son petit texte « Machination ».« Machination », qui est un petit texte adhère d'une association de la défense de l'identité réunionnaise. Il y a des gens là, il y a des publications, il y a des textes de lui que des gens peuvent trouver, et je pense qu'il y a quelque chose d'universel aussi dans ce...
Je vous remercie infiniment, je vous remercie infiniment. Le temps presse, malheureusement. La semaine prochaine, le 28, je rappelle aux gens, nous allons organiser une édition spéciale dans le cadre de la journée de la langue et la culture créole. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le 28 octobre et le 28, c'est un dimanche et c'est célébré à travers le monde. Et nous allons aussi célébrer cette 16e colloque international des études créoles qui se tient à l'Université des Seychelles dès le 22 octobre, donc dès demain jusqu'au 2 novembre prochain. De la part de toute l'équipe et de tous mes amis ici, je vous dis merci. Je vous remercie, professeur Thomas Piez. Et on se voit bientôt la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, madame, monsieur, l'émission sert à sa fin. Je remercie beaucoup monsieur Carole Jelin, Pablo Mna Sandoval, Marc-Albert Cormier et le professeur Thomas Piez. Un grand merci à DJ Devera et Sloan Ballan, Radio France Internationale. Dimanche prochain, rendez-vous à ne pas rater. Célébration sur la langue et la culture créole avec plusieurs invités, donc Éric Pierre, Aurélie Lacassagne, Fondation Sylvanie Lindor, Joyce Viramoutou, Peggy Civil, professeur Thomas Piez et tant d'autres encore. collaboration spéciale de Radio France Internationale. Bon dimanche, bonne semaine, surtout allez voter demain le 22 octobre. Voilà, je vous laisse avec chanson, musique traditionnelle de l'île de la Réunion, la Maloya.
Son langage la tient à moi.
La maladie vaut la tient à moi.
Do, 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 tia.